Donc un apprentissage par rapport au jeûne, jeûne et prière. Alors, je vais vous donner donc quelques versets qui vont nous accompagner hein, donc pendant cette matinée. Comme ça, vous pouvez les avoir donc à la vue. Mais je vous encourage, une fois arrivé à la maison, de, si vous avez l'habitude, donc souligner ces versets. Jean-Philippe, tu peux m'aider avec d'autres personnes. Donc, soulignez ces versets dans votre Bible. Je sais pas si vous avez l'habitude de mettre des marqueurs fluo par rapport à certains sujets. Donc, vous pouvez donc prendre le temps de vraiment donc souligner ces versets dans votre Bible. Parce que c'est vraiment important que pendant toute cette semaine, nous soyons en mode jeûne et prière. Alors, c'est mortifier l'âme, c'est mortifier le corps. Et nous allons le voir, nous allons le lire. Mais quelles sont les bénédictions quand on vient devant le Seigneur et donc quand on se présente devant lui et quand notre seule motivation, c'est de le connaître, de le voir, de l'entendre sa voix. Alors, donc les feuilles sont en train d'être distribuées. Si quelqu'un veut aider Jean-Philippe, peut-être ça s'aidera plus vite aussi. vous savez, le jeûne, c'est une discipline. Si je dis jeûne, comme les jeunes, bon, le jeûne, il faut vraiment mettre l'accent, c'est une discipline. Nous sommes disciples de Jésus. Nous trouvons donc dans la Bible 238 fois le mot disciple. 238 fois. Trois fois le mot chrétien, mais 238 fois le mot disciple. Et le disciple est celui qui suit son maître, et le disciple est celui qui accepte aussi les disciplines de la foi. Et donc le jeûne et la prière, c'est une discipline. Ça nous coûte quelque chose. Offre ton corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable devant Dieu. Ce qui est de votre part un culte raisonnable. Ne te conforme pas à ce monde, mais sois transformé par le renouvellement de ton entendement. Et tu comprendras ce qui est bon, agréable et parfait, la volonté de Dieu. Mais offre ton corps comme un sacrifice vivant. Alors quand on jeûne, quand on prive notre corps de la nourriture, donc bien sûr, on offre notre corps comme un sacrifice. Seigneur, viens et accomplis ta volonté dans ma vie. Seigneur, je veux grandir dans ma communion avec toi. Seigneur, je veux te connaître davantage. Alors, je vais accepter la discipline du jeûne. Il y a une quarantaine de disciplines dans la Bible. Peut-être un jour, on pourra enseigner sur ces disciplines. Il y a des disciplines. Pourquoi? Parce que nous sommes des disciples de Jésus. Et en tant que disciples, il nous invite. Il nous invite à affamer la chair pour que l'homme spirituel soit renouvelé. Affamer la chair pour que l'homme intérieur soit édifié. Ça, c'est des expressions qu'on trouve en Éphésiens chapitre 3, vous pouvez le voir par la suite, verset 14, et aussi en Romains chapitre 15. Pardon, donc 2 Corinthiens chapitre 4, verset 15 à 17. Donc il faut que l'homme spirituel soit fortifié. À quel moment est-ce que l'homme spirituel est fortifié? Si vous voulez fortifier l'homme physique, donc il y a ceux qui vont au gym. Hein? Et donc vous avez, voilà, vous êtes inscrit, vous êtes abonné, et vous allez au gym, et vous faites tout pour renouveler votre corps physique. Parce que c'est bien, c'est bien. L'exercice corporel est profitable, la Bible dit. Ce n'est pas que ça, mais c'est profitable. Alors qu'est-ce qu'on fait pour faire grandir et faire mûrir et donc faire transformer l'homme intérieur? Qu'est-ce que le jeûne? Vous savez, dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, on trouve le mot jeûne et l'idée du jeûne pratiqué 50 fois ou plus de 50 fois. Alors, moi je vous encourage, je vais vous donner certains versets, vous avez certains versets ici. Sortez vos stylos et vous pouvez noter des choses autour des notes, autour des versets. Parce qu'il y a plusieurs clés que je vais vous donner ce matin. De savoir pourquoi et comment nous devons nous y prendre pour pratiquer le jeûne. Qu'est-ce que le jeûne? C'est le fait qu'en tant que disciple, on choisit de renoncer à la nourriture et peut-être autre chose, télévision, séries, réseaux sociaux, etc. On peut vraiment faire un jeûne pendant ces trois jours et tout. Hein? Afin que pendant ce moment voulu par nous, Personne ne nous l'a imposé. Personne ne nous a forcé. Vous savez, c'est une invitation collective, c'est l'Église. Voilà, donc dans ce cas-là, donc si tu jeûnes, si tu jeûnes pas, bon, ça c'est devant toi et devant Dieu. Mais toujours est-il, si tu jeûnes, la Bible dit en Matthieu chapitre 6, garde un visage rayonnant. Ne sois pas comme ça. Ne sois pas, oh là là, qu'est-ce que j'ai faim? Mais tu vas aller jusqu'au bout, jusqu'au bout du dimanche après-midi, après le jeûne et prière. Et alors, ce n'est pas un concours non plus. Mais c'est sûr et certain que si tu jeûnes, si tu jeûnes un repas, deux repas, on va voir donc les fréquences avec lesquelles donc on peut jeûner, etc. Donc ce qui est important, c'est que dans ton cœur, tu as résolu de prendre du temps pour focaliser ton attention, tes pensées, ton cœur et tes intentions sur Dieu, sur sa personne et sa présence. Amen. Donc si tu jeûnes qu'un seul repas par jour, prends le temps, va dans un parc à côté d'où tu travailles et passe du temps à chercher la face de Dieu, à prier, à lire la Bible. C'est l'idée de ne pas seulement ne pas manger, mais c'est le fait de passer du temps avec le Seigneur. Parce que quand on jeûne, on va choisir de lire la Bible, on va choisir de prier, on va choisir d'adorer Dieu. Saisis les trésors qui sont dans la Bible. Saisis donc les vérités qui vont transformer ta vie. Parce que tu es dans une attitude de dire, Seigneur, je vais être à l'écoute de ta voix. On trouve 80 fois l'idée que Dieu parle, que Dieu, ainsi parle l'Éternel, ainsi parle l'Éternel. Alors qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce qu'il veut nous dire? Et on arrive à Apocalypse, dans lequel il dit, l'Esprit du Seigneur veut parler à ceux qui ont des oreilles pour l'entendre. Et là, on lit les sept livres, les sept lettres, donc le livre des Apocalypse, donc aux églises, et encore on entend la voix de Dieu sur celui qui veut entendre parler. Alors, soyez à l'écoute. L'essentiel, c'est qu'on se rapproche de Dieu. L'essentiel, c'est que pendant ce temps, on sache que c'est un moment dans lequel nous allons mûrir dans notre foi et notre amour pour Dieu. Alors, il y a bien sûr des manières de se préparer pour les jeunes. Pour les jeunes, je ne sais pas, bon, vous comprenez. Alors, il y a des manières de se préparer, on va en parler. Par exemple, si tu vas jeûner pendant une semaine, mais il faut commencer à te préparer. Ça, on va le voir tout à l'heure. Si tu vas jeûner 15 jours, bon, il n'y a pas beaucoup de préparation. Si tu jeûnes pendant une semaine, ne va pas donc prendre un grand pizza à la fin du dimanche après-midi après le jeûne et prière. Parce que les vases capillaires dans tes intestins se sont endormis pendant le temps que tu n'as pas nourri donc les intestins. Et alors, il y a des douleurs atroces et intenses, parce que moi-même, je l'ai vécu. Dans le passé, quand j'étais à l'école biblique, on avait fait 3 jours de jeûne et prière, 4 jours de jeûne et prière. Et donc, et à la fin, donc c'était des jours et nuits. Donc moi, je prenais toujours le créneau donc minuit, 6 heures, parce que qu'est-ce que je ferais d'autre que dormir? Alors, c'était chouette pendant ce temps. Et alors, le matin du 4e jour, on est tous allés dans un restaurant et on s'est gavé. Et on a mangé. Et on a mangé parce qu'on avait faim. Mais alors, je vais vous dire les douleurs qu'on a subies. Pourquoi? Parce qu'on réveille l'intestin. Et donc, il y a des choses très pratiques. Si vous vous sentez de faire un jeûne de 7 jours, de 14 jours, de 21 jours, de 40 jours. Alors, il y a toute une préparation médicale, etc. Pour ceux qui font de jeûne de 40 jours, il y a toute une préparation médicale. Mais on reviendra. Mais le jeûne et prière a 6 raisons pour lesquelles nous devons l'adapter à notre vie. Premièrement, le jeûne et la prière peut nous aider à mieux entendre la voix de Dieu. Surtout si on se ferme aux réseaux sociaux et à tout le reste, on va avoir une écoute limpide. On va être, Seigneur, je veux entendre ta voix. Je veux t'écouter. Parle à mon cœur. Parle à mon esprit. Aussi, pendant le jeûne et prière, Dieu peut révéler nos péchés cachés. Psaume 32, c'est pas un verset que vous avez là, mais c'est, vous pouvez ouvrir vos Bibles au Psaume 32. Et qui dit tout de suite, heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas d'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée. Car nuit et jour, ta main s'appesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel et tu as effacé la peine de mon péché. Alléluia. Qu'ainsi tout ton pieux te prie au temps convenable. Tant que je me suis tu, mes os se consumer. Tant que le Saint-Esprit était là pour essayer de me faire comprendre et de me remettre en question et que je ne voulais pas l'admettre, alors dans un moment de jeûne et prière, le Saint-Esprit vient et il nous révèle les péchés cachés. Et il nous révèle aussi comment nous pouvons nous lever et comment nous pouvons nous repentir. Et en nous repentant, on abandonne notre péché et on commence vraiment à dire, Seigneur, je me détourne de mes mauvaises voies. Nous avons tous des mauvaises voies duquel il faut qu'on se détourne. Nous avons tous des mauvaises voies. Et en tant qu'Église, il faut qu'on cherche aussi, Seigneur, montre-nous en tant qu'Église, comment, Seigneur, oh Dieu, tu veux transformer, comment tu veux transformer notre vision, comment tu veux, si on parlait à nos cœurs, mais Seigneur, s'il y a des choses donc qui sont cachées, alors dévoile-les, Seigneur, et qu'on puisse se détourner de tes mauvaises voies. Parce qu'on est un peuple qui invoque ton nom, qui s'humilie, qui cherche ta face, Seigneur, qui veut de toi, Seigneur, et nous ne voulons que de toi. Le jeûne et prière aussi peut fortifier notre intimité avec Dieu, notre intimité avec lui. Le jeûne et prière peut nous apprendre à prier avec une bonne motivation. Jacques chapitre 4, ce n'est pas un passage que vous avez sur les feuilles, ouvrons nos Bibles à Jacques chapitre 4, qui dit que lorsque nous prions, lorsque nous jeûnons, lorsque nous nous approchons de Dieu, il y a des manières de faire. D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez, vous ne possédez pas, vous êtes meurtriers envieux et vous ne pouvez pas obtenir, vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions, tout simplement. Quelle est notre motivation derrière la prière? Au verset 6, il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu. Alléluia. Résistez le diable et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère. Soyez dans le deuil. Seigneur, dans ta présence, tu me montres, oui, je suis misérable. Seigneur, je vais sentir ma misère, je vais être dans le deuil. Parce qu'au temps convenable, tu vas m'élever si moi je m'humilie. C'est mon jeûne et prière. Le jeûne et prière aussi peut édifier notre foi et notre conviction de la crainte de Dieu. Lorsque nous sommes dans une détermination de ne pas nous lever que si le Seigneur ne nous ait pas parlé, ne nous ait pas bénis, Jacob a dit à Dieu, je ne partirai pas que si tu ne m'es béni. Et Dieu l'a béni, il a marqué Jacob. Et Jacob a boité, il était boiteux depuis ce jour-là. Il avait été marqué par Dieu. Mais à Dieu, Dieu l'a béni, Dieu l'a touché, Dieu est venu le rencontrer. Alors quand nous faisons des moments de jeûne et prière, des moments dans lesquels nous allons passer du temps avec lui, dans lesquels il n'y a rien d'autre qui va nous distraire, Seigneur, je ne partirai pas que si tu ne m'es béni. Parce que si tu me bénis, je pourrais être une bénédiction aussi pour les autres. Et aussi, sixième point, le jeûne et prière nous équipe pour chasser des démons. Vous vous rappelez quand les disciples ne pouvaient pas chasser les démons. Et Jésus leur dit en Matthieu chapitre 17 et verset 21, vous êtes incrédules et c'est pour cela que vous n'avez pas pu chasser ce démon. Vous êtes incrédules, demandez à Dieu d'augmenter votre foi. Et à la fin, il dit, car ce sort de démon ne sort que par le jeûne et la prière. Est-ce que c'est systématique chaque fois qu'on est face à une situation de démon? Quand je parle des démons, et je le dis rapidement, je ne crois pas qu'un chrétien peut être possédé des démons. Je crois qu'un chrétien peut être obsédé, opprimé, parfois déprimé dans ses pensées, et ça c'est des attaques du diable, mais ce n'est pas la possession. Je ne vais pas donc m'étaler là-dessus, peut-être un jour, oui, on pourrait le faire, mais il y a beaucoup de personnes qui croient que tout est un esprit. Je tombe en panne de l'essence, c'est un esprit. Mais attendez, c'est une manque de prudence. Oui, mais je me suis mis en colère, et donc l'esprit de colère donc m'a fait que je frappe. Non, ce n'est pas l'esprit de colère. Si tu te mets en colère, ne pèche point. Contrôle toi-même, maîtrise soi et demande au Seigneur de t'aider. On aimerait que tout soit un esprit. Je me rappelle une fois, j'étais avec un couple de très chers amis et je voyais comme il traitait son mari. Je lui ai dit, mais pourquoi tu le traites comme ça? Ah, mais le Saint-Esprit ne m'a pas dit que je n'ai pas le droit de lui manquer le respect. Je lui ai dit, mais la parole de Dieu te dit que tu dois le respecter. Ah oui, mais moi je n'ai pas reçu cette révélation. Donc, elle a dit, j'ai un esprit, de provoquer. J'ai un esprit de ci, j'ai un esprit de ça. Je dis, non, tu es rebelle et il faut que tu te maîtrises et que tu t'humilies devant le Seigneur. Et c'est un couple américain, donc c'est pas un couple ici. Hein. Alors, donc, elle a compris. Vous savez ce que mon père faisait? Mon père, vous savez, donc il jetait les traités par les avions, vous savez. Donc il y a eu 60 tonnes de traités qui sont tombés sur le Mexique, et en 10 ans, 300 000 personnes qui avaient reçu les traités, qui avaient donc en main ou depuis l'avion, se sont donnés à Christ, ont écrit, ont reçu un Nouveau Testament, donc en espagnol, et c'est ça qui a commencé à faire leur réveil au Mexique. Mais aussi, donc, deux, trois occasions, je me rappelle, il y avait un couple de personnes des États-Unis qui venaient. Et donc, ils venaient exprès, parce que il y avait de la rébellion. Je ne vais pas généraliser, mais dans ce cas-là, c'était la femme qui était rebelle. Et alors, je me rappelle, hein, parce qu'ils sont venus, donc, loger chez nous. Et le lendemain matin, qui est de l'arrivée, mon père a emmené cette sœur dans son avion. Pour faire des pirouettes et pour faire plein de choses, donc dans l'air. Et quand elle est arrivée, elle s'était complètement défaite de son esprit rebelle. Elle avait compris qu'en priant vers Dieu, Dieu allait la libérer. Et alors, chacun son moyen. Hein. Mais simplement pour dire, maîtrisons la chair. Et quand on va affamer la chair, on va apprendre à maîtriser la chair. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui va donc susciter ce désir et ce désir profond dans notre cœur. Alors, il y a donc des passages bibliques, vous les avez ici. On va lire donc ce premier passage, Ésaïe 58. Je ne vais pas lire tous les passages, mais je vais faire référence. Tous les jours, ils me cherchent, ils veulent connaître mes voies. Comme une nation qui aurait pratiqué la justice et n'aurait pas abandonné la loi de son Dieu, il me demande des arrêts de justice, il désire l'approche de Dieu. Que nous sert de jeûner si tu ne le vois pas? De mortifier notre âme si tu n'y as point égard? Voici le jour de votre jeûne, vous vous livrez à vos penchants et vous traitez durement tous vos mercenaires. Voici vous jeûnez pour disputer, pour quereller, pour frapper méchamment du poing. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour pour que votre voix soit entendue en haut. Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir? Un jour où l'homme humilie son âme, courber la tête comme un jonc et se coucher sur le sac et la cendre? Est-ce là ce que tu appelleras un jeûne, un jour agréable à l'Éternel? Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté. Dénoue les liens de la servitude. Renvoie libres les opprimés et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans la maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Alors ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alors tu appelleras et l'Éternel répondra, tu crieras et il dira, me voici. Si tu éloignes du milieu de toi le joug, les gestes menaçants et le discours injurieux. Si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière s'élèvera sur l'obscurité et tes ténèbres seront comme le midi. L'Éternel sera toujours ton guide, il rassasiera ton âme dans les lieux arides et il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir? Bien sûr, il y a une action qui accompagne le jeûne. Quand on lit ces passages bibliques, on sait que dans l'Ancien Testament, il y a souvent une expression par rapport au jeûne, par rapport au deuil. David, quand il a péché et que Bathsheba avait eu donc un petit enfant et que cet enfant est mort pendant sept jours, pendant que l'enfant était malade, David a jeûné. Et après sa mort, il a continué à jeûner. C'était donc un signe de deuil. C'était aussi, donc, dans l'Ancien Testament, une façon de s'humilier devant Dieu. On voit par exemple en Joël, vous l'avez sous la feuille, Joël chapitre 2 et verset 12. C'est la deuxième feuille. Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs, avec des lamentations. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements, et revenez à l'Éternel, votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et il se répand des maux qu'il envoie. Qui sait s'il ne se reviendra pas et ne se repentira pas, s'il ne laissera pas avec auprès lui la bénédiction des offrandes et des libations pour l'Éternel, votre Dieu. Sonnez de la trompette en Sion, publiez un jeûne, une convocation solennelle. Pour chercher l'appui de Dieu, pour chercher la présence de Dieu, pour chercher tout simplement la face de Dieu. Sur la dernière feuille, vous avez donc 2 Chroniques, chapitre 15 et verset 9. Asa était un roi qui a fait les choses selon le cœur de Dieu. Et à un moment donné, il va convoquer le peuple à jeûner et à prier. 2 Chroniques, chapitre 15, verset 9, vous l'avez sur la feuille, donc derrière. Il rassembla tout Juda et Benjamin et ceux d'Éphraïm, de Manassé et de Siméon qui habitaient parmi eux, car un grand nombre des gens d'Israël se joignirent à lui lorsqu'ils virent que l'Éternel, son Dieu, était avec lui. Ils prirent l'engagement de chercher l'Éternel, le Dieu de leur père, et de tout leur cœur et de toute leur âme. Et quiconque ne cherchait pas l'Éternel, c'était sérieux, hein, le Dieu d'Israël devait être mis à mort, petit ou grand, homme ou femme. Car si on cherchait Dieu, son intervention serait évidente, serait visible. Ils jurèrent fidélité à l'Éternel à voix haute, avec des cris de joie et au son des trompettes et des cors. Tout Juda se réjouit de ce serment, car ils avaient juré de tout leur cœur. Ils avaient cherché l'Éternel de plein gré, et ils l'avaient trouvé, et l'Éternel leur donna du repos de tous côtés. On sait à maintes reprises, dans la Bible, dans l'Ancien Testament, lorsqu'ils étaient face à la guerre, il fallait vraiment prendre du temps pour être à l'écoute de la voix de l'Éternel et pour être vraiment attentif à ce que lui voulait dire. En Joël chapitre 2, jeûne, lamentation, pleurs. Dans l'Ancien Testament, donc, c'était parfois donc un signe de deuil, c'était aussi le fait de s'humilier devant Dieu et demander son secours. Dans le Nouveau Testament, c'est une manière de se rapprocher de Dieu, de méditer sur la parole, en lui donnant la priorité d'une manière pratique. C'est normal qu'on fasse des jeûnes et prières. Même il dit en 1 Corinthiens chapitre 7, et vous pouvez le lire, que si un couple marié, chrétien, veut se donner un moment dans lequel tous les deux sont d'accord, de l'abstinence sexuelle pendant un temps de jeûne pour vaquer à la prière, vous pouvez le faire, s'ils sont d'un commun accord. Donc, vous savez, c'est sous-entendu qu'un couple chrétien va rentrer dans une saison de jeûne et prière. C'est sous-entendu que l'Église va rentrer dans des saisons de jeûne et prière. Alors, donnons la priorité d'une manière pratique. Nous voyons que les disciples, Actes chapitre 13, vous l'avez sur la deuxième feuille, parce qu'ils avaient besoin d'entendre la voix de Dieu, qu'est-ce qu'ils ont fait? Actes 13, 2, pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Rappelez-vous qu'ils avaient choisi des diacres pour que les apôtres puissent s'adonner à l'étude de la parole et à la prière. Les diacres étaient là pour servir les tables, pour être sûr que les orphelins et que les veuves recevaient la nourriture nécessaire. Et alors ils ont choisi 7 hommes remplis de l'Esprit de Dieu, remplis de la sagesse de Dieu, remplis de la présence de Dieu, pour servir aux tables, pour libérer les apôtres, pour que les apôtres puissent s'adonner à la prière, à la méditation de la parole et au ministère. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient. Le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Verset 3, alors après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Acte 14, 23, ils firent nommer des anciens dans chaque église et après avoir prié et jeûné, ils recommandèrent au Seigneur en qui ils avaient cru. Donc un moyen aussi de reconnaître que Dieu est celui qui dirige. Oui, au sein de l'Église. Parce qu'il y a un peuple qui le cherche. En Jérémie, chapitre 29, verset 11 au verset 14, vous connaissez le verset 11, car les projets que j'ai formés sur vous, ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Et ensuite, il dit, et vous allez me chercher. Et si vous me cherchez de tout votre cœur, sur la première feuille, en bas, vous m'invoquerez et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai, vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous. Est-ce qu'on peut témoigner aujourd'hui et dire, le Seigneur s'est laissé trouver par moi. Il s'est laissé trouver par moi. Mais il a eu un prix à payer. Il a fallu que je prenne le temps pour entendre sa voix. Le temps aussi pour dire à la chair, la faire taire. Et Seigneur, je veux m'occuper de mon âme, de mon esprit, pendant ces quelques instants. Quelle est la motivation? Quelle est la motivation de notre cœur? Hébreux chapitre 4, verset 12, nous dit que la parole de Dieu, elle est vivante et efficace. Elle est comme une épée à double tranchant pour partager l'âme, l'esprit, les jointures et les muelles. Et il pénètre jusqu'au plus profond de notre cœur pour discerner quels sont les sentiments et les pensées et les intentions de notre cœur. Et après, au verset 16, il va dire, approchons-nous du trône de la grâce de Dieu afin d'être secourus dans nos besoins. Car quand la parole de Dieu vient et pénètre notre cœur et nous montre quels sont les domaines dans lesquels nous devons encore crucifier la chair et ses désirs, dans lesquels nous devons encore offrir nos corps comme un sacrifice vivant devant Dieu. Seigneur, je ne peux pas de moi-même, mais je m'approche de ton trône de grâce afin d'être secouru dans mon besoin. Et en tant qu'Église aussi, il faut que le Seigneur puisse pénétrer au plus profond de ce que nous sommes, de notre être, et dire quelles sont les motivations de notre cœur. Alors, quelle sorte de jeûne? Il y a plusieurs exemples dans la Bible. Il y a des jeûnes, où c'est que la nourriture. Par exemple, quand Jésus a été tenté, il ne dit pas qu'il n'a pas bu de l'eau pendant 40 jours. Il a dit qu'il n'a pas mangé. Okay? Il y a d'autres versets dans la Bible dans lesquels, oui, Moïse, pendant 40 jours, il n'a ni mangé ni bu de l'eau. Ça, c'était quelque chose d'extraordinaire parce qu'il allait recevoir les 10 commandements. Il fallait vraiment qu'il soit attentif. Okay? Mais jamais, jamais on préconise que quelqu'un doit jeûner en ne mangeant pas et en ne buvant pas un liquide, ne buvant pas de l'eau. Maximum, médicalement, on ne peut pas survivre sans boire de l'eau plus de 3 jours. Il y a des témoignages des personnes qui se sont égarées dans le désert, etc. Et d'une manière ou d'une autre, ils ont survécu. Mais médicalement, ce n'est pas possible de survivre sans boire de l'eau. Alors, il y a des personnes qui boivent d'autres liquides, du thé, de la tisane, mais sans sucre, hein, parce que... Le sucre, c'est le goût, c'est la saveur. Je sais que donc j'ai assisté donc l'année dernière à la porte ouverte donc à Mulhouse et c'était une semaine de jeûne et prière. Il n'y a pas un biscuit qui traînait. Pas un biscuit. On était là depuis 9h du matin jusqu'à 21h le soir. Il n'y avait rien qui traînait. Il y avait la tisane et bon, il y avait du sucre pour ceux qui voulaient. Mais c'était clair et net que les 800 personnes qui étaient là pour chercher la face de Dieu. Et on a eu des moments de visitation dans lesquels vraiment il y a eu, bon, comme si les écluses des cieux se sont ouvertes. Il y a eu des visitations des dieux, des moments quand les gens étaient à genoux, en pleurs. On était tous touchés. Pourquoi? Parce qu'on s'est donné les moyens pendant cette semaine de tout simplement dire, Seigneur, je veux être à ton écoute. Je veux être à ton écoute. Donc, toute nourriture, la boisson, sauf l'eau. Matthieu 4, 2 à 3, Jésus. C'est l'exemple de Jésus. Il y a aussi des jeûnes partiels. Le jeûne partiel, s'abstenir de certaines nourritures. En Daniel, par exemple, ils ne vont pas manger les mets du roi. Ils vont manger que des fruits et des légumes. Ce qu'on appelle le jeûne de Daniel, souvent ça s'est fait pendant 21 jours. Bon, pour moi, c'est pas vraiment une gêne, hein, parce que bon, quand même, ils mangent beaucoup, hein, beaucoup de légumes et beaucoup de fruits. Mais quand même, ils appellent ça, mais sans viande, sans œufs, sans voilà, sont des produits, donc voilà, sans farine, etc., etc. Mais Daniel et Shadrach, Meshach et Abednego n'ont pas voulu participer au mets du roi. Ça, on le trouve en Daniel chapitre 1, verset 8, verset 12. Et Daniel 10, 3, c'est là où il dit, voilà, pendant 21 jours, je n'ai mangé que des fruits et des légumes. OK? Donc, il y a un jeûne total, mais pas plus de 48, maximum 72 heures. Le jeûne total, ça serait ni nourriture, ni liquide. Mais il faut que ça soit une conviction personnelle. Personne vous l'impose et personne va l'enseigner. Esdras l'a fait. Esther l'a fait. Esther, chapitre 4, verset 16, vous l'avez sur les feuilles, regardez bien. Donc, sur la première feuille, au verso, « Va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse, et jeûne pour moi sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit ni le jour. Moi aussi, je jeûnerai même avec mes servantes, puis j'entrerai chez le roi, malgré la loi, et si je dois périr, je périrai. » Donc ça, c'est un jeûne de 3 jours. Et aussi le jeûne surnaturel de Moïse, qui n'a pas bu ni mangé pendant 40 jours lorsqu'il allait recevoir les 10 commandements. Alors je sais qu'il y a des personnes qui prétendent, hein, qu'ils ont jeûné 40, 50 jours sans eau, etc. Je n'étais pas là pour le vérifier, mais voilà. Après, il y a des témoignages extraordinaires. La puissance de Dieu qui se manifeste, des guérisons, plein de choses. Moi, je sais que depuis que nous avons commencé donc à envisager cette idée du jeûne et prière, moi, je sais que le Seigneur est en train d'agir déjà. Dans ce temps, depuis qu'on a annoncé qu'on allait faire le jeûne et prière, il y a des gens nouveaux qui sont arrivés au milieu de nous, qui avaient faim et soif de Dieu. Il y a des personnes, donc à Dieppe, Dieu est en train aussi d'agir. Et aussi dans des prières particulières qu'on a demandé au Seigneur, le Seigneur est déjà en train d'exaucer. Pendant la nuit, Dieu a exaucé une prière, donc que Denise et moi on avait présentée au Seigneur. Extraordinaire, Dieu a fait un miracle, il a eu une percée déjà, même avant de commencer le jeûne et prière. Donc soyons vraiment attentifs et soyons dans l'attente de recevoir de la part du Seigneur son conseil, de recevoir de la part du Seigneur son inspiration et son onction sur notre vie. Car il faut que l'Église, qui est le corps de Christ, il faut que sur l'Église, il y ait l'onction de Dieu. Donc l'Esprit de l'Éternel est sur moi. C'est une prophétie messianique. Mais cela se traduit aussi par l'Église. Il m'a oint pour porter une bonne nouvelle aux malheureux. Il m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il m'a oint pour annoncer à celui qui est aveugle qu'il peut récupérer sa vue. Il m'a oint pour libérer les captifs. Oui, il y a des personnes qui sont captives. Oui, il y a des personnes qui peuvent venir pour la première fois et dire... Demain après-midi, je vais aller rendre visite à un jeune homme qui s'appelle Gabriel, qui est possédé des démons, qui a traîné dans l'occultisme, le satanisme. On l'a emmené pour faire des purifications dans le spiritisme et tout. Et alors, et ce jeune homme, il est en psychiatrie, il est complètement, complètement perdu. Donc, alors, moi, j'ai parlé avec son père qui est venu me voir vendredi matin. Et alors, je lui ai dit, mais est-ce que lui, il est lucide? Est-ce que lui, il cherche à être délivré? Il m'a dit, je ne sais pas dans quel état il sera demain. Mais c'est sûr et certain que quand je vais le rencontrer, et ce jeune homme qui ne connaît pas Dieu, il a besoin d'être libéré des démons. Mais j'aimerais vous dire, parce que beaucoup de gens pensent que toute personne sans Christ est remplie des démons. Ce n'est pas vrai. C'est les gens qui, par ignorance, au Mexique, il y avait beaucoup de gens qui allaient dans la voyance, dans la sorcellerie, et les gens ne pouvaient même pas dire « Jésus, viens dans mon cœur », ils ne pouvaient pas le prononcer. Il fallait qu'on prie pour eux. Une fois, mes parents ont rencontré une jeune femme qui n'avait pas dormi depuis 3 mois. Elle était agitée, elle était animée, elle était les yeux grands ouverts. Ils ont commencé à prier pour elle. Et des démons ont commencé à se manifester. Et vous le croyez ou pas, mais 126 épines de cactus et des aiguilles en métal sont sorties de son corps pendant le temps de libération, pendant le temps de délivrance. 126. Et Dieu l'a délivrée. Une fois qu'elle était délivrée, ça a été révélé que des gens avaient mis des poupées voodoo dans son jardin. Ils sont allés pour désenterrer les poupées dans lesquelles ils avaient mis des épines et des aiguilles, etc. Et il n'y avait plus rien. Et tout le village s'est converti. Parce que la sorcière avait dit, mais moi j'ai mis tout ça. Ça a été traduit dans son corps et Dieu l'a délivré. Donc il y a des personnes, oui, qui sont possédées. Mais pas tous les non-chrétiens sont possédés. Il y a des personnes qui, par ignorance, ne connaissent pas Dieu, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont pleins de démons. Bien sûr, il peut y avoir des choses qui sont enracinées en eux, des jougs donc, qui sont sur eux. Et il faut briser le joug, la Bible dit, avec l'onction de Dieu. Et surtout, l'Église et l'Esprit de l'Éternel est sur l'Église pour enlever l'esprit abattu. Et un esprit abattu, ce n'est pas un démon, c'est une attitude d'abattement, c'est être découragé constamment, c'est ne pas pouvoir louer le Seigneur et le remplacer par un vêtement de louange. C'est là où le Seigneur va se servir de chacun de nous. Nous sommes des saints qui sont perfectionnés en vue de l'œuvre du ministère pour l'édification du corps de Christ. Il faut que dans notre église locale, chacun de nous, on soit des saints perfectionnés, alléluia, pour accomplir l'œuvre du ministère. Servir et servir ce que Dieu a mis dans notre cœur. Quelques conseils physiques. Il faut préparer ton corps pour ne plus recevoir de la nourriture. Même 3 jours, 4 jours, il faut d'une façon progressive. Hein? Donc, tu loupes un repas. Après, au fur et à mesure, tu loupes 2 repas. Hein? Et donc, tu prépares ton corps. Alors, l'argent que tu aurais dépensé, mais mets-le du côté, donne-le aux pauvres. C'est ça qu'il dit ici, le jeune. Couvre le nu. Donne ta subsistance à celui qui a faim. Voilà, prends ce temps et dis, Seigneur, ok, tu m'as donné de quoi manger. Tu m'as donné, mais Seigneur, moi je vais mettre cet argent du côté parce que je vais priver mon corps, parce que je veux, Seigneur, entendre ta voix, je veux m'approcher de toi, je veux m'humilier devant toi. Et surtout, une fois que tu commences à vivre le jeûne, alors passe du temps dans la prière. Je l'ai déjà dit au départ, mais d'une façon progressive. Quand tu brises le jeûne, ne le fais pas avec un steak, ni avec un hamburger. Il faut aller doucement, une soupe. Et voilà, et légèrement, de manière légère. Donc on va briser le jeûne pour que le corps ne soit pas affecté. Alors il y a des effets secondaires, des vertiges, des maux de tête, etc. Donc ton corps n'est pas habitué à ce que l'on prive de la nourriture. Ton corps va être purifié des toxines. Voilà, il y aura donc une cause à effet. Mais à la fin, je le dis à nouveau, piano, des soupes, des nourritures légères, pas de viande, dépendant le nombre de jours que tu as décidé de mettre à part. Si ton état physique ne le permet pas, il n'y a aucune condamnation. Dieu sait quelles sont tes limites et personne n'est là pour te juger. Mais c'est sûr que Dieu connaît ton cœur et tu peux être d'un commun accord avec ce qu'on est en train de faire en tant qu'Église. Voilà, moi je vous encourage à pratiquer le jeûne au moins une fois par semaine. Je vais vous dire, c'est extraordinaire. Les résultats, donc de passer un temps privilégié face à face, cœur à cœur avec Dieu. Aussi, si ce n'est pas une facile... Ce n'est pas une façon facile de perdre du poids. Attention. Hein. Parce que si on pense que le jeûne va nous aider à perdre du poids, si ça c'est la motivation, quand vous arrêtez le jeûne, vous allez manger un steak, vous allez tout manger et vous allez tout reprendre en double. Donc faites très attention par rapport à ça. Il y a des personnes qui disent, bon, je vais jeûner, donc ça va m'aider. Mais parce que le but recherché pendant ce temps de jeûne, c'est d'avoir un temps intense de focaliser sa prière, qui produira comme résultat une communion plus intense avec Dieu, une plus grande communion, qui va produire aussi donc d'être capacité par le Saint-Esprit. C'est lui qui nous rend capables. C'est lui qui connaît les dons et les talents qu'il a mis en nous. C'est lui qui connaît aussi quelle est la vision. C'est lui qui connaît quelles sont les œuvres qu'il a préparées pour nous. La Bible dit en Éphésiens 2:10 que nous sommes son ouvrage, créé en Jésus-Christ, afin d'accomplir les œuvres qu'il a préparées pour nous. Tu as des œuvres que tu dois accomplir, que je ne pourrais pas accomplir. Dans ton cercle d'amis, dans ton sphère de vie, il y a des choses que toi tu vas vivre. Moi je ne pourrais pas les vivre, mais Dieu t'attend au tournant, parce qu'il y a des œuvres pour lesquelles il te prépare. Et alors il te donne la capacité, lorsque l'homme intérieur est édifié, lorsque l'homme spirituel est édifié, lorsque l'homme donc spirituel commence vraiment à être dans cette communion intense avec Dieu, alors notre âme est attachée à Dieu. Le psaume 63, oh Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche, mon âme a soif de toi. Mon corps soupire auprès de toi, dans une terre aride et desséchée. Mon corps soupire auprès de toi. Pour voir ta puissance et ta gloire, ainsi je te contemple dans le sanctuaire. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Et le verset 9 nous dit, mon âme est attachée à toi. Il faut que notre âme soit attachée à Dieu. C'est dans le face à face avec lui. C'est lorsque nous sommes devant le miroir de la parole de Dieu que nous voyons le reflet de la présence de Dieu dans notre vie. Alors Jésus a pratiqué le jeûne. Il a pratiqué le jeûne 40 jours, mais des fois aussi, il a pratiqué le jeûne pendant un jour. Les disciples ont pratiqué le jeûne. Combien de fois dans l'année devons-nous jeûner? Combien de fois dans le mois devons-nous jeûner? Ça, c'est entre toi et Dieu. Mais c'est le fait de vivre passionnée, de vivre l'impact du jeûne dans ta vie. Il y a plusieurs exemples dans la Bible. Il y a Daniel qui a jeûné pendant 21 jours. Pendant qu'il jeûnait, on va le lire, Daniel chapitre 2, vous l'avez sur les feuilles. Donc, pardon, Daniel chapitre 10, 9, pardon, 9, 3 et 5. Je tournais ma face vers le Seigneur Dieu, c'est le verso de votre première feuille, afin de recourir à la prière et aux supplications, en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. Donc à l'époque, il fallait vraiment presque se... Voilà, on s'est déshabillé et on prenait un sac et on se mettait de la cendre sur la tête pour montrer qu'on était dans l'humiliation. Quand Jonas a été libéré pour aller vers Ninive, une fois qu'il avait été rebelle et que Dieu lui a donné cette opportunité d'être avalé par un grand poisson et d'être donc après régurgité à côté de Ninive pour qu'il aille prêcher à Ninive, parce que Jonas, pour lui, Ninive devait périr. Mais la Bible dit que Dieu aimait les animaux à Ninive, en Jonas chapitre 4, le dernier verset. Alors Dieu avait un plan pour Ninive et Ninive s'est repenti. Et Ninive a eu l'occasion de pouvoir se repentir. Mais après ça, la Bible dit que Jonas, il s'est mis dans la cendre, il a commencé à se lamenter en disant, mais Dieu, je savais que si tu m'envoyais à Ninive, ils allaient se convertir, et moi je ne voulais pas qu'ils se convertissent parce qu'ils sont méchants, etc. Et voilà, Jean-Baptiste, sac et la cendre. Donc c'est une forme de s'humilier. Alors il dit, je jeûnais, je priais, je prenais le sac et la cendre. Il y a ce chant qui dit, il a changé mon deuil en allégresse. Il a délié mon sac. Il a changé mon deuil en allégresse. Et il m'a ceint de joie, afin que mon cœur le loue par des cantiques et ne soit pas muet. Éternel mon Dieu, je te célébrerai à jamais. L'esprit abattu, c'est le sac. L'esprit abattu, c'est abattu. Mais il a senti dans son cœur, ce n'était pas un esprit abattu ici, il dit, Seigneur, je vais supplier devant toi. Je priais l'Éternel, verset 4, mon Dieu, et je lui fis cette confession. Seigneur, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements, nous avons péché et nous avons commis l'iniquité et nous avons été méchants et rebelles et nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances. Daniel représentait un peuple qui avait été emmené en captivité à cause de leur rébellion. Si vous voulez savoir à quel moment ils ont été emmenés en captivité, lisez 2 Chroniques chapitre 36, dans lequel il décrit la situation la plus triste. Le temple était détruit. Personne n'écoutait la voix de Dieu. Et le peuple a été emmené en captivité. Vous pouvez lire le contexte, c'est triste. Les sacrificateurs ne voulaient plus offrir des louanges, ne voulaient plus offrir des sacrifices. Tout était terminé. Et alors, dans ce contexte, il dit, Seigneur, je reconnais, maintenant je représente le peuple. Moi, je ne peux pas représenter le peuple. Je sais que des fois, il y a des personnes qui ont des enseignements, qu'il faut demander pardon pour des pays, demander pardon. C'est à chaque individu de demander pardon. Moi, je ne peux pas demander pardon ni pour un peuple, ni pour une nation. Bon, je peux dire, Seigneur, viens, Seigneur, guéris notre pays, mais demander pardon, il faut que chaque individu ait l'occasion de dire, Seigneur, je me repens. Et dans l'Église aussi, je ne peux pas non plus demander à Dieu pardon pour toi. Je ne peux pas me présenter à ta faveur, je peux intercéder pour toi, je peux donc demander au Seigneur de t'aider dans tes difficultés, dans un moment de tentation, etc. Il y a des moments, des fois, quand des personnes passent par des moments très difficiles, et oui, on est là pour les soutenir, pour prier, mais nous ne pouvons pas nous repentir à leur place. Et alors ici, il dit, oui, je représente le peuple, et nous avons péché, nous avons commis l'iniquité. Quand Esaïe va voir cette vision de Dieu, en Esaïe chapitre 6 et verset 1, il voit le Seigneur et il voit les chérubins et il entend cette voix qui dit « Saint, Saint, Saint est le Seigneur ». Et ensuite, il dit « Je suis un homme perdu, mes lèvres sont impures. Je représente un peuple qui est perdu. Et mes yeux ont vu la gloire de Dieu. » Il y a un séraphin qui vient avec un charbon ardent et qui le place sur ses lèvres et qui lui dit « Tes lèvres sont purifiées, ta bouche est purifiée maintenant. » Et ensuite, Dieu fait retentir sa voix. « Qui enverrai-je? Qui ira pour moi ?» Et là, Esaïe dit « Me voici, envoie-moi. » Parce qu'il avait eu cette rencontre avec Dieu. Mais ici, c'est vrai, il priait à faveur du peuple. Et pendant 21 jours, il a jeûné et prié. Et pendant 21 jours, il n'y a pas eu de réponse. Et en Daniel chapitre 10, il est dit qu'il y a l'ange de l'Éternel qui vient vers lui, qui lui dit, pendant 21 jours, on avait déjà entendu ta prière, ta supplication, mais pendant 21 jours, il y a eu le prince des ténèbres qui a fait guerre, qui a combattu. Et donc, il a fallu qu'on attende 21 jours, mais toi, tu as été persévérant et tu es resté fidèle. Et voilà, et je viens maintenant pour te dire que la délivrance est là, que le salut est là. Et c'est pour ça des fois quand le Seigneur met sur ton cœur de jeûner, prier pour un sujet particulier. Alors, prends le temps. Comprends donc la sagesse de Dieu dans cela. Mais il y a des combats qu'on mène. Moïse, il a jeûné pendant 40 jours. Élie a jeûné pendant 40 jours. Jésus a jeûné pendant 40 jours. Ça serait vraiment donc une conviction du Saint-Esprit de te dire... Je veux que tu mettes 40 jours à part. Mais c'est sûr et certain que plus on s'approche de Dieu, plus on cherche la face de Dieu, plus il va manifester sa gloire et sa puissance. Amen. Les yeux de l'Éternel parcourent la terre entière, cherchant ceux qui ont un cœur pur pour se montrer fort à leur égard, pour se manifester à leur égard, pour venir et te dire, tu as ma faveur. Nous avons lu il y a quelques semaines, Seigneur, viens. Déclare-toi à ma faveur. Seigneur, ce matin, Seigneur, notre désir, c'est de te connaître. Le diable ne va pas avoir peur parce que tout d'un coup, on va se mettre à jeûner et prier. Le diable a peur parce qu'il voit qu'il y a des disciples constants et qui cherchent Dieu et que jour après jour, ouvre la parole, que jour après jour, entend la voix de Dieu. C'est ça qui lui fait peur. Mais Seigneur, pendant ce temps collectif, nous invitons, Seigneur, chacun à considérer le besoin de cette discipline dans notre vie. Nous ne sommes pas parfaits, Seigneur. Nous avons besoin d'entendre ton esprit nous dire. Parce que même, Seigneur, si nous cédons au péché, quelle était notre motivation derrière ça? C'était de faire du mal. Et on fait du mal par nos paroles, par nos actions. Mais la crainte de Dieu vient pour nous rappeler à la repentance. L'amour de Dieu vient pour nous rappeler à la repentance. Et pendant ce temps de jeûne et prière, Seigneur, et même je sais qu'il y a ceux qui seront sur le lieu de travail la journée, Seigneur, de jeudi et vendredi. Mais Seigneur, je te demande, Seigneur, que dans les temps qui peuvent s'échapper, être présent, Seigneur, mais que ça soit une ambiance constante tout au long de ces 3-4 jours dans lesquels nous voulons que tu parles à nos cœurs, dans lesquels nous nous attendons à ce qu'il y ait des baptêmes du Saint-Esprit, à ce qu'il y ait, Seigneur, des dons spirituels qui soient donnés et répandus, Seigneur, selon ta volonté, comme il est dit en Corinthiens chapitre 12. Seigneur, nous ne pouvons pas rester, Seigneur, oh Dieu, assis. Nous ne pouvons pas rester, Seigneur, sans travailler. Parce que oui, le jeûne et la prière, c'est un travail, c'est un combat. Mais Seigneur, nous voulons le faire. Personne n'est forcé. On n'impose à personne. Mais Seigneur, nous voulons, Seigneur, au bout de ces 4 jours, au bout de cette semaine qui est devant nous, nous voulons voir ta gloire. Nous voulons comprendre, Seigneur, que tu avais, Seigneur, oh Dieu, un message à nous transmettre. Tu avais des appels à confirmer dans nos cœurs. Car Seigneur, tu nous appelles. Et tes appels sont sans repentance. Te demandons, Seigneur, vraiment que chacun de nous, on soit prêt, Seigneur, à être mis sous la balance. Être pesé, Seigneur. Être pesé. Savoir, Seigneur, que l'équilibre de la parole, de la prière, notre chair qui est affaiblie, notre chair qui est, qui voilà, comme il est dit donc en 2 Corinthiens, c'est vrai que ça va être une souffrance. C'est vrai, mais nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruirait, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions, oui, le jeûne, c'est une affliction. Au nom du monde présent, produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Si nous voulons, Seigneur, que l'homme intérieur, l'homme spirituel, soit édifié, soit encouragé, soit construit. Au nom de Jésus. Et pour ceux qui sont nouveaux dans la foi, ceux qui commencent, Seigneur, à marcher. Seigneur, encourage-les, Seigneur. Qu'à leur niveau, ils peuvent comprendre sur l'importance de ce face-à-face avec toi. Au nom de Jésus. Donne-nous un zèle pour ta maison. Donne-nous le zèle de la prière. Donne-nous le zèle, Seigneur, d'avoir ce face-à-face avec toi. Car, Seigneur, il y a tant de personnes qui ne te connaissent pas. Tant de personnes qui sont dans la souffrance. Tant de personnes, Seigneur, qui sont dans l'ignorance spirituelle, qui se réveillent chaque matin sans aucun espoir. Et c'est pour ça qu'il y a des pensées de suicide qui viennent. Mais ils n'ont pas de recours, ils ne peuvent pas dire, Seigneur, viens à mon secours, aide-moi. Parce que les pensées suicidaires peuvent venir aussi dans la vie des chrétiens. Mais Seigneur, nous avons, Seigneur, ce privilège de pouvoir emmener toute pensée captive à Christ et d'écraser, Seigneur, les pensées des tentations que l'ennemi, si on voudrait nous envoyer dans n'importe quel domaine de notre vie. Tu es venu, Seigneur, pour nous libérer. Tu es venu, Seigneur, afin qu'on puisse être des terrebintes de l'Éternel, une plantation pour l'Éternel. Nous voulons être comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison, dont le feuillage ne se flétrit point, et tout ce qu'il fait lui réussit. Pourquoi ? Parce que nous voulons, Seigneur, avancer avec toi. Seigneur, que pendant ce temps de jeûne et prière et pendant toute cette semaine, lorsque nous entendons cet appel, Seigneur, cet appel de nous rapprocher de toi, Seigneur, qu'on vive quelque chose hors de l'ordinaire et qu'on puisse prendre goût, Seigneur, à ces face à face avec toi. Au nom de Jésus. Amen.